On est toujours en direct d'Arsonic, plateau croisé, Radio 670 99.1 à Caen et Radio Pulse 90.0
voilà,
à Alençon. Il y a Matt Bastard qui vient d'arriver sur le plateau. Coucou.
Bonjour.
Alors, on va faire une interview croisée, donc comme on disait pour les deux radios. Tu viens d'arriver sur Caen, sur Briouze, désolé, du coup je suis restée chez moi. Tu arrives directement de Los Angeles là ou tu étais sur quelques dates avant
Non, je suis rentré il y a 2 semaines.
D'accord.
10 jours.
Ça va le décalage horaire?
Oui, ça va.
Tu joues à quelle heure? Rappelle-moi, je me souviens plus.
Je joue tard,
tu joues tard, ouais, c'est ça.
Minuit 45.
Minuit 45 sur la scène Sonic. Eh ben, dis donc, c'est ton premier album solo.
Ouais.
Tu l'as travaillé avec des copains d'enfance, il me semble.
Ouais. Bon, en fait, un peu tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, on n'a jamais arrêté. On a toujours bossé ensemble, en fait, depuis toujours. C'est juste que là, c'est la première fois qu'ils font la tournée aussi avec moi, donc c'est pour ça. Ils sont sortis de leur cachette.
Et du coup, ils t'accompagnent sur scène, j'imagine.
Oui, bah ça fait 25 ans là, qu'on joue tous ensemble, c'est super cool, ouais, je suis content.
Alors justement, t'as commencé la musique super tôt, à 14 ans avec ton premier groupe, t'avais enregistré une première démo sur une cassette de NoFX, que t'avais envoyée au Festival de Dour, il me semble, et c'est ouais. Comme ça que vous avez fait, que t'as fait ta première grosse scène, c'est ça?
Ouais, bah on a pu aller à un tremplin, et après... Et je sais pas pourquoi ils nous ont pris, mais ils nous ont pris. Parce qu'il y avait des groupes qui jouaient bien. Nous, on jouait vraiment très mal, mais on était drôles.
Vous aviez partagé l'affiche avec Mass Hysteria, il me semble, cette année, c'est ça?
Oui, Mass, Crowbar. Ce groupe-là, c'était beaucoup plus punk hardcore, donc il y avait plus. C'était plus des. Il y avait Propane, Psychophytol. Après ça remonte, je me rappelle plus bien, mais...
Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit que tu avais un avenir dans la musique et que j'imagine à 14 ans quand tu te retrouves comme ça à faire à être à l'affiche d'un festival comme Dour, c'est quelque chose qui est quand même peu commun, quoi.
Ah, mais nous on faisait du punk rock, donc
Il n'y a rien de peu commun dans le punk rock.
Non, mais dans le sens, c'est que si tu veux faire de la musique à ta carrière, tu fais pas du punk rock.
Ouais, c'est clair.
Et nous, on a fait ça pendant 17 ans, donc c'était vraiment... Non, c'était cool, on s'est marré, voilà, on se marre toujours. On a toujours notre groupe de punk, on ressort quand on a envie. Non, le moment où... J'ai parce que toutes ces années-là, moi, je travaillais, moi, j'étais infirmier à côté. Et le moment où j'ai dit « Oh tiens, je vais faire de la musique », c'est quand j'ai fait Skip the Use. Avant, le punk rock, c'est de la musique pour beaucoup de gens. Pour d'autres dont je fais partie, c'est plutôt un mouvement, une façon de penser et qui s'exprime par de la musique et pas que par l'art, par les fanzines, par les articles, le journalisme, les radios libres, voilà, et le groupe de punk rock, ça fait partie d'un ensemble de choses. Donc jouer à Dour, c'était super cool, on a rigolé, mais on prenait autant notre pied à jouer dans des squats ou dans des... C'était pas... Voilà.
Et justement, j'ai l'impression qu'avec ce projet solo, là, tu reviens vraiment aux essences même de ce que tu écoutais quand t'étais ado. Parce qu'on ressent vachement le côté punk, hardcore, hip-hop aussi.
J'écoute toujours la musique que j'écoute. Le hip-hop, c'est plus quelque chose que j'ai découvert récemment, plutôt en étant aux États-Unis. Mais donc avec Skip the Use, c'est pas que je faisais moins, c'est que c'est un duo, Skip the Use, donc c'est Yann Stéphanie et moi. Et donc c'était aussi le concept, c'est qu'on fasse quelque chose ensemble, donc pas 100% moi, pas 100% lui, mais quelque chose qui vient des deux, et c'est super. Et là, on a eu envie de parce qu'on a fait pendant 8 ans, et on s'est dit, tiens, on va faire un peu de nos trucs à nous. Donc lui, il a fait The No Face, moi j'ai fait monter ce projet-là, où forcément, on a les autres 50% qui reviennent. Mais ils n'étaient pas absents de Skip the Use, c'est juste qu'ils étaient. C'est quelque chose qui était ajouté à ce qu'il fait lui, et donc du coup ça a donné autre chose. Mais voilà, les racines et l'état d'esprit, c'est un peu.
Oui, ça t'a jamais quitté, quoi.
Oui, j'ai pas vraiment faire autre chose en fait, je pense. En plus,
ça. Alors Mathilde le disait à l'instant, hein, t'es parti vivre à Los Angeles avec tes deux fillettes et tes quatre valises. Est-ce que. La vie en Californie, ça, c'est quelque chose qui t'inspire particulièrement pour ta musique? Parce que j'ai vu par exemple sur ton album, il n'y a qu'un seul morceau en français.
Ouais, mais tu vois, dans les trois albums de Skip the Use, il y a un morceau en français. Attends, on a fait ça ici. Donc, non, c'est juste que je me suis toujours... aujourd'hui, il y a 20 ans, c'était il y a la mode de chanter en anglais. Moi, j'ai jamais trouvé ça plus cool qu'autre chose. C'est juste que nous, on vient de Lille, enfin, on venait de Lille, et qu'on était à la frontière belge, et que quand tu chantais en anglais, bah, t'avais plus de chance d'aller jouer aussi en Belgique, et donc t'avais plus de concerts, et donc c'était cool, parce que nous, en Flandre, les gens, ils parlent pas français. Donc, puis. Moi j'ai grandi à Lille, donc quand tu grandis à Lille, t'es à, je sais pas, peut-être 15 km de tournée, gants. Et moi, juste à l'époque où on a commencé la musique, à 15 km de nous, il y avait parmi les plus grands groupes du monde. Il y avait Questios, il y avait Solwax, ils étaient là à 15 km de nous. Donc on se disait comment en 15 km ça peut tout changer. Enfin, comme, pourquoi ils ont le même temps que nous, ils écoutent la même chose, mais eux, ils... et donc on avait vraiment envie d'aller là-bas. Et puis en plus, les Belges, il faut le dire aussi, ils étaient vachement mieux structurés que nous. Donc ils avaient des plus de salles de concert, leur festival était mieux. Et donc du coup, pour ça, on parle du festival de Dour, que nous, on avait toujours envie d'aller là-bas, parce qu'on se disait, putain, c'est cool. Quand on allait voir des concerts, on allait en Belgique, parce qu'il y avait des groupes qu'on écoutait qui passaient plus là-bas que chez nous. Et donc, chanter en anglais, c'était beaucoup plus simple, c'était l'étranger. Après, je n'ai jamais vu la langue comme étant une destination, c'est plutôt un chemin. Après, on peut y aller de toutes les manières. Quand je fais une chanson qui s'adresse aux Français, ben, je la fais en français. En l'occurrence, Vivre Mieux, ça parlait vraiment de la situation de la France au moment où j'écris la chanson, donc je l'ai fait en français. Donc, voilà.
Alors, Love, alors je sais pas si je prononce bien le nom de l'album parce que ça n'a rien à voir avec Amour, c'est L-O-O-V, c'est ton album qui est sorti en juin dernier. Ça signifie quoi déjà le nom de l'album?
Bah, ça va voir quand même, ouais. Avec l'amour, c'est We Love Each Other to the Death. C'est pas on s'aimera, la traduction française, c'est pas on s'aimera à en mourir, c'est vraiment on s'aimera jusqu'à la mort, parce que j'ai remarqué que pendant longtemps j'ai souvent été très vindicatif dans mes textes et tout, et puis j'ai remarqué que bon, ça avait un effet, mais pas forcément toujours celui que j'escomptais. Et en fait, notamment avec mes petites années croches avec le Front National, et je me suis rendu compte qu'en fait, Marine Le Pen, plus j'étais heureux dans ma vie, plus ça lui cassait vraiment les couilles. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire un album entier de tout ce qui me fait plaisir. Et parce que c'est certes l'amour de ma femme, de mes enfants, mes potes, etc. Mais c'est aussi l'amour de mes principes, l'amour des philosophies que je défends, l'amour de mes causes. C'est pas, voilà, c'est l'amour sous toutes ses formes. Et voilà.
Et donc ton premier album est sorti juste quelques mois après la séparation avec Skip the Use. Donc j'imagine que c'est quelque chose sur lequel tu travailles déjà avant, non?
Ouais, ça faisait 3 ans à le faire. Parce que j'avais pas beaucoup le temps, du temps de Skip the Use, d'écrire beaucoup. On faisait beaucoup de choses. Il y a des chansons que j'avais déjà écrites, que j'avais mis un peu sous le coude. En même temps, je fais beaucoup de production à côté du groupe. Donc, j'écris un album pour les autres, tu fais des chansons, tu dis, ah, celle-là, j'aime bien, je vais la mettre sur le côté. Et puis, au bout d'un moment, t'as une vingtaine de titres sur le côté, et puis tu te dis, qu'est-ce que j'en fais,
voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a des morceaux que tu as mis sur ton album solo qui auraient pu du coup être Skip the Use, ou c'est vraiment...
Par exemple, avec Skip the Use, le dernier truc qu'on a fait, c'était, on a fait la chanson là, des supporters pour l'Euro. Et donc cette chanson, c'était une reprise de Kiss, mais au tout début, quand on nous a parlé de faire ce truc là, on nous a dit, ouais, est-ce que vous voulez faire une chanson pour les supporters, enfin les gens qui vont dans les stades? Et moi, j'aimais bien ce concept de se dire, c'est vrai qu'on fait toujours des trucs pour les joueurs, mais les gens qui payent et qui vont avec leurs gosses, on s'en branle. Donc du coup, je me suis dit, ouais, c'est cool. Et donc j'avais fait une chanson, et cette chanson, c'était Stand As One, mais comme On n'était pas non plus de manière européenne assez gros. L'UEFA n'a pas voulu qu'on la fasse. Ils nous ont demandé de faire une reprise que tout le monde connaissait. Mais donc, tu vois, cette chanson, je l'avais écrite à ce moment-là. Donc, voilà.
Alors, les morceaux Lame People et Skylander sur ton album, on parle de, si j'ai bien compris, d'un môme qui est sauvé par le rock'n'roll. Est-ce que c'est ton histoire personnelle ou pas?
Non, je pense qu'on est... Enfin, après le rock'n'roll, c'est un mot qui devient plus grand depuis qu'il a été volé par le marketing. C'est compliqué, tu vois, de l'associer à quelque chose. Mais du moins, à mon époque, c'est vrai que à travers le punk, le hardcore, les niches, comme on dit, on peut découvrir des mecs comme, je sais pas, si on écoute Fugazi, on peut écouter Ian McKay, lire ses livres, apprendre des choses sur des philosophies. Moi, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué quand j'étais jeune, et surtout qui m'ont permis de me rendre compte que j'étais pas tout seul à être sensible aux choses que je lisais ou que j'écoutais. Et donc c'est ça, je pense, qui est fort et utile, dans le sens c'est de ne pas se sentir seul. Aujourd'hui, les adolescents, ils ont l'impression d'avoir plein de copains parce qu'ils ont 300 followers qui ont rien à branler d'eux et qui savent même pas comment ils s'appellent, qui connaissent pas vraiment leur réalité. On a besoin d'enfiler un costume pour ressembler, pour faire partie d'une communauté. On a vraiment l'impression qu'en allant chercher une personnalité quelque part, c'est comme si on l'avait, tu vois. Bah, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, mais il y avait la musique. Et au-delà de la musique, il y avait aussi des radios, des fanzines, comme je le disais, des magazines et des gens qui vraiment écrivaient des articles, des livres. En fait, je pense qu'il y avait des gens passionnés qui faisaient plein d'autres choses que faire des fanzines et des radios parce qu'il fallait qu'ils bouffent, mais qui utilisaient leur expérience de la réalité, de la vie, pour communiquer des choses, communiquer des expériences. Et là, vraiment, tu peux... Enfin, moi, en tant qu'adolescent, je pouvais soit m'identifier ou pas. Et justement, je trouve que c'est hyper dommage qu'aujourd'hui, ce soit vraiment moindre. Chaque fois que je le dis dans les interviews, le rock a vraiment besoin de réalité pour exister. C'est pas une musique de posture, c'est pas une musique de. Enfin, à la base, c'est pas une musique de posture, c'est pas une. On n'est pas là pour représenter quelque chose ou faire de l'ego trip ou faire des blagues. C'est une musique qui suscite la prise de position, qui suscite la réflexion. Il y a quelque chose de très énergique. Il y a une volonté de. Quand on regarde des groupes comme Lizzy Strata qui vont jouer ce soir, on sent qu'eux, ils sont vraiment issus de cette génération, Refused, etc. Mais on sent qu'il y a vraiment la volonté de. Il y a une sorte de catharsis musical et je suis un peu, des fois j'ai un peu déçu que ce soit des niches et puis qu'il n'y ait pas énormément de gens qui soient sensibles à ça et qu'on préfère écouter le dernier truc à la mode qui parle de Fion et rigoler avec ses copains en se disant que tu vois, c'est tout, c'est comme ça. Je suis pas un réac, je suis pas. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. C'est le monde d'aujourd'hui. Mais c'est le même monde, c'est ces mêmes pistes de réflexion qui, quand elles ne sont plus là, nous rendent plus sensibles à la manipulation. Moi, c'est surtout ça qui me dérange. Quand je vois des gamins de 18 ans manifester pour le Nini, tu vois, entre les deux tours, alors que. J'ai fait pendant 15 ans des concerts où il y avait 100 skinheads qui venaient me défoncer la gueule juste parce que j'étais noir et que selon eux j'avais pas le droit de faire de la musique. Je me dis, on peut pas dire que ni, c'est pas la même chose, on parle pas de la même chose. Et quand je me rends compte qu'aujourd'hui un jeune de 18 ans ne le sait pas, je me dis, waouh, putain, on a vraiment un boulot de malade, nous les plus vieux, de transmission, parce que c'est ultra, ultra dangereux. Là, je parle de ça pour que ça donne un exemple très simple à comprendre pour les auditeurs, mais c'est la même chose dans la manipulation des religions, etc. Mais quand j'avais 18 ans, je n'avais rien à foutre de Dieu, il fallait me parler de skateboard, enfin, tu vois. Pourquoi ? Bah parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin de s'identifier à quelque chose et qu'il n'y a plus rien dans leur environnement. Il n'y a plus de Kurt Cobain, il n'y a plus de Sonic Youth, c'est fini. Aujourd'hui, il y a juste des marques. Une image Et voilà. Mais c'est compliqué.
Alors, ton album hein, est riche d'influences diverses, tout comme à l'époque de Skip the Use, d'un morceau à l'autre, tu pars dans des registres un petit peu différents. T'imagines que c'est un peu le reflet de ta culture musicale? T'écoutes quoi dans le camion en ce moment, comme ça, quand t'es en tournée? Est-ce qu'il y a des choses que t'écoutes particulièrement en ce moment ou...
Aux États-Unis, il y a une radio qui s'appelle Alt Nation, qui est une radio d'internet que j'écoute beaucoup parce que y a pas mal de groupes pour lesquels j'ai travaillé qui passent sur cette radio, et puis j'ai découvert plein de choses intéressantes. J'ai découvert Caflay. Moi, avec ma femme, on a beaucoup écouté Caflay. Ce que j'ai écouté d'autre. On a écouté Bishop Briggs parce que Caflay a bossé. On a vraiment beaucoup écouté Caflay. Je pense que là, si on doit citer un artiste là depuis quelques mois, on écoute beaucoup Caflay, et surtout ce qu'elle fait, les collaborations qu'elle fait, sa manière d'appréhender la musique, de donner une nouvelle vision du hip-hop en ayant intégré vraiment toute la musique des années 90. C'est vraiment vraiment intéressant. C'est un nouveau, une sorte de nouveau courant comme ça. Et puis après, j'écoute beaucoup de techno. Vraiment beaucoup de techno, genre Bergheim, enfin des trucs allemands, j'aime bien. Pour moi, c'est la vraie liberté musicale, il n'y a pas de concept, c'est encore vierge de tout. Et puis j'écoute toujours NoFX, Rancid, Leftovers Correct, comme ça j'écouterai toute ma vie.
D'ailleurs, il y a le label Moncus et du Tofu qui vient de sortir un livre sur NoFX. C'est vrai, il a fait la traduction en français et il n'y en a presque plus, donc j'invite les auditeurs à aller l'acheter.
J'adore le nom de ce label, Bouquet c'est dit au fait, c'est génial.
C'est un super label.
Eh bien merci.
Et non, mais moi j'ai une question, c'est ma question que je pose. Est-ce que ce soir, bon, on a parlé de Lysistrata, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont t'as vraiment pas envie de louper ou tu t'en fiches?
Non, mais je vais regarder Vitalik. J'avoue que j'ai pas forcément... j'aurais bien aimé être là pour Playmo hier.
Eh ben écoute, justement, on les a interviewés, j'étais comme une petite gamine parce que j'avais 15 ans quand j'avais été les voir pour la première fois, et c'est grâce à eux après que j'ai écouté du métal, du punk, du hardcore et tout. C'est assez bizarre de te dire ça, commencer par Playmo, mais ils ont fait un super set, vraiment c'était plutôt cool, c'est marrant en fait de les revoir maintenant.
C'est drôle parce qu'à l'époque de Playmo, nous on faisait vraiment carving à fond, et puis donc on était plutôt côté punk rock avec les Unco, Burning Head, Seven Eight, tout ça. Et d'ailleurs, on avait joué ici au Art Sonic. Enfin bref, on va pas dire l'année, ça fait peur. Mais voilà.
Je rappelle que c'est la 23e édition.
et en fait, mon meilleur ami avec qui voilà, je suis parti aussi à Los Angeles, et enfin j'ai rejoint à Los Angeles, et c'est David Gitlis qui est chanteur aussi des Announcers, et c'est sûr qu'il me parle tout le temps de ces époques là où ils tournaient tous ensemble, et donc voilà, en tout cas je suis super content qu'ils aient réussi à le faire. On s'est vu à Los Angeles avant la tournée, et puis ça leur tenait vraiment vraiment à cœur cette tournée de regoûter à la scène et puis de se marrer, ça c'est le meilleur truc.
Ils avaient 20 dates, ils en ont rajouté une, ils ont passé à 21, c'était la 19e hier, voilà. Ouais. Et bah écoute, c'est quoi les prochaines dates pour toi là cet été? Il y en a quelques-unes?
Ouais, bah demain on va au Franco de Spa, après on va au Festival de la Paille, après on va à deux autres festivals que j'ai oublié le nom, on a encore une date le 11 août, on va au City Truck, on va au Francophonie du Luxembourg.
Il va falloir du Guronzin, quoi.
Non, mais c'est bien, c'est cool. Moi, je suis vraiment très content. Je pensais pas que, honnêtement, qu'on aurait autant je pensais pas être autant sollicité sur les festivals, etc. Et c'est vrai qu'on a un super accueil. Je suis très content.
Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve donc à minuit 45. On va retrouver ton set. On est bien content de découvrir, du coup, parce qu'on t'a jamais vu en live tout seul. Du coup, ça va être cool.
Ah ben, voilà.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau croisé, en tout cas. Merci
à vous.
Est-ce que Thomas, tu nous as préparé un morceau, du coup, de Matt Bastard, puisqu'on vient d'avoir l'interview, pourrait peut-être s'écouter un morceau, je pensais.
Est-ce que Matt Bastard, t'as un morceau à nous proposer en particulier? Que tu préférerais qu'on passe?
T'as qu'à mettre Vivre mieux. Hop,
vivre mieux.
Et bien voilà. On va préparer ça. Je rappelle, on est toujours en direct du festival Arsonic, 20-21 juillet, 17h, 19h. Plateau croisé, Radio 666, 99.1 et Pulse à Alençon, 90.0.